Régis Picot, comment, vu du Crédoc, appréciez-vous la question qui est posée? D'abord, quelle réponse y donnez-vous? D'autre part, peut-être est-ce la bonne question?
Alors, c'est vrai que la question, c'est les classes moyennes ont-elles disparu? Moi, je ne pense pas que les classes moyennes ont disparu. Peut-être, par contre, ce qui a disparu, c'est les espoirs et les aspirations des classes moyennes qui ont disparu. En tout cas, les espoirs qu'on pouvait avoir dans les années 60, 70 sont peut-être plus aujourd'hui aussi facilement accessibles aujourd'hui. Peut-être qu'on peut déjà s'attarder sur qu'est-ce que c'est les classes moyennes, comment on les définit. Alors, donc, à l'INSEE, il n'y a pas de définition officielle, entre guillemets, mais il y a pas mal d'économistes qui ont leur définition. Alors c'est un petit peu technique, hein. On part du revenu médian dont on vous a parlé tout à l'heure, qui partage la population en deux parties égales. Et puis on enlève 25% à ce revenu médian et on rajoute 50% à ce revenu médian. Ça nous fait une fourchette. Et là-dedans, on regarde combien il y a de personnes. Sauf que moi, les pourcentages, ça ne me parle pas beaucoup. Et ce que j'aime bien faire, c'est combien ça fait concrètement chaque mois. Et si on avait un peu plus de temps aujourd'hui, on pourrait. Je vous poserais la question, par exemple, qu'est-ce que c'est pour vous les classes moyennes? Alors chacun a son idée sur la question et c'est assez variable en fait. Et en gros, 2 personnes sur 3 ont l'impression de faire partie des classes moyennes. J'aurais pu vous poser 2 questions plus précises. C'est pour vous, qu'est-ce que c'est que d'être riche? Combien on gagne par mois? À partir de combien on gagne par mois, on peut se sentir riche? Et donc, je peux vous laisser réfléchir quelques minutes, mais on a fait un sondage et on a demandé à un échantillon représentatif de la population. Et le chiffre moyen qu'on nous a donné, c'est 4 500 euros par mois pour une personne. Donc les gens disent, bah oui, à partir de 4 500 euros par mois, ça va, je me sens riche. Donc peut-être que ça, c'est une des fourchettes hautes des classes moyennes. Sauf que 4 500 euros par mois, il faut savoir que c'est une somme que ne gagne que 3% de la population. Quand on demande après qu'est-ce que c'est pour vous d'être pauvre, le chiffre que les gens nous donnent en moyenne, c'est 1 000 euros à peu près. En dessous de 1 000 euros, franchement, j'y arrive pas, c'est difficile, c'est galère, je me sens pauvre. Donc on a un petit peu déjà là une idée de ce que sont les fourchettes hautes et basses des classes moyennes, sauf que moi, ça me gêne un petit peu d'aller jusqu'à 4 500 euros, sachant qu'il n'y a que 3% qui gagnent plus que cette somme-là. Donc, on a choisi. Oui, il y a un point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. On a parlé du revenu médian. On a dit le revenu médian, voilà, il évolue comme ça par rapport au revenu moyen. Mais on n'a pas dit combien c'est le revenu médian. C'est 1 500 euros par mois. Donc, en France, il y a 1 personne sur 2 qui gagne moins de 1 500 euros par mois. Donc je pense que ça, c'est intéressant d'avoir ces chiffres en tête. Ça permet un petit peu de recaler les représentations qu'on peut se faire de soi-même, de la place qu'on occupe dans la société, avec la réalité. Parfois, on a tendance à avoir une perception un petit peu biaisée. Donc pour répondre à la question, est-ce que les classes moyennes ont disparu? Non. Effectivement, comme vous le disiez, si on regarde sur 30 ans, les inégalités ont plutôt eu tendance à se réduire. Et les revenus à se resserrer un petit peu autour de la moyenne. Ça n'a pas beaucoup progressé, si vous voulez, mais par rapport à d'autres pays comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, ou même la Suède, là, les classes moyennes, la part des classes moyennes a diminué au cours du temps. Donc la France est dans une situation un petit peu atypique. Beaucoup d'études internationales le montrent, hein. La France est un des rares pays où les inégalités sur très longue période se sont réduites. Par contre, effectivement, depuis une dizaine d'années, dans le haut de la distribution des revenus, là, on voit que les très hauts revenus, eux, leurs revenus ont fortement accéléré. Et quand on regarde le niveau de vie des classes moyennes, on l'a vu sur votre courbe tout à l'heure, effectivement, le revenu des classes moyennes, il augmente. Donc, on ne peut pas dire non plus que les classes moyennes se sont paupérisées. C'est une idée qu'on entend assez régulièrement. Il augmente le revenu des classes moyennes, mais il n'augmente pas très vite. Donc, aujourd'hui, c'est 1 500 euros par mois. Si on regarde 10 ans, en 1980, donc 30 ans en arrière, ce revenu, il était de 1 000 euros par mois. Donc en 30 ans, on a gagné en gros 500 euros par mois. Ça ne fait pas beaucoup hein, quand on ramène ça à une augmentation chaque année.
Une fois qu'on a retiré l'effet de l'inflation.
Voilà, une fois qu'on a retiré l'effet de l'inflation. Donc par exemple, l'année dernière, enfin les derniers chiffres de l'INSEE sur le revenu nous disaient que le revenu médian était de 1 510 euros par mois. L'année précédente, c'était 1480. Donc, on a gagné 30 euros en un an. Donc, certes, le revenu des classes moyennes, il a augmenté, mais il n'a pas augmenté très vite. Et à côté de ça, et puis 1500 euros par mois, c'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure, pour les classes moyennes et les bas revenus, il faut voir que les dépenses de logement, toutes les charges, les dépenses contraintes, représentent une part très importante. En gros, ça représente à peu près 40% du revenu. Donc, on part de 1500 et on rajoute à peu près 600 euros de loyer, d'eau, gaz, électricité, assurance, frais divers, des choses auxquelles on peut difficilement échapper. Si vous rajoutez à ça l'alimentation, les transports, l'habillement, l'ameublement du ménage, qui ne sont pas des dépenses de luxe, hein, si à la fin du mois, il vous reste 100 à 200 euros pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour faire des sorties, pour partir en vacances et mettre un petit peu d'argent de côté, vous avez de la chance. Donc certes, le revenu des classes moyennes a augmenté, certes, les classes moyennes ne sont pas en diminution, mais elles ont des conditions de vie qui sont pas évidentes, et surtout, leur revenu a augmenté, mais les dépenses contraintes, de logement notamment, ont augmenté encore plus vite. D'où une impression de perte de pouvoir d'achat. Ok, je gagne plus, mais je dois sortir davantage pour payer mon loyer. Donc je pense que cet aspect-là, il est assez important pour comprendre la dynamique des classes moyennes. Et puis il y a un autre aspect, c'est donc ces très hauts revenus-là. Si on prend les 1% de la population les plus riches, il y a 10 ans, ils gagnaient à peu près 8 500 euros par mois. Plus de 8 500 euros par mois, donc c'est pas mal. Hein. Moi, je ne les gagne pas, j'aimerais bien les gagner. Mais donc il y a 10 ans, ils gagnaient 8 500 euros par mois. Aujourd'hui, ils en gagnent 11 000 euros par mois. Donc vous voyez le décalage en 10 ans. Eux, ils ont gagné à peu près 300 euros par mois en plus chaque année. Leur augmentation de salaire est de 300 euros par mois.
Et vous comptez vraiment tous les revenus du patrimoine ou il y a encore des trous là ?
Non, on essaie de tout compter avec toutes les données qu'on a, mais c'est une des raisons pour lesquelles justement les très hauts revenus voient leur niveau de vie augmenter plus rapidement, parce que effectivement, quand on est très riche, on peut placer de l'argent à la banque ou dans des biens immobiliers, et effectivement, ça rapporte.
Voire en Suisse, peut-être.
Voire en Suisse. Vous êtes médisant. Hein. Je pense que ce qui peut aussi créer un sentiment de frustration, c'est de se dire, ben voilà, mon revenu, il augmente, mais bon, super, j'ai gagné 30 euros cette année. Et puis, à côté de ça, vous voyez les très hauts revenus qui, eux, voient leur niveau de vie s'accélérer. On pourrait dire, après tout, c'est juste 1% de la population. Et pourquoi on va s'énerver à chercher la petite bête sur les 1% de la population ? Sauf que c'est quand même 600 000 personnes en France. 600 000 personnes, c'est une très grande ville. Hein. Et puis surtout, ce sont des personnes qui sont assez visibles dans le paysage social. C'est les stars du foot, c'est les stars de cinéma, les stars de la chanson, les PDG du CAC 40, etc. Enfin bon, c'est des gens qu'on voit dans les médias, qu'on voit autour de soi. Donc je pense que cette société à deux vitesses peut créer un sentiment de frustration. Je pense que le sentiment de frustration, il était moins fort dans les années 60. Parce que pourquoi ? On se disait, ok, j'ai pas beaucoup d'argent, les plus riches, ils gagnent plus que moi, mais bon, c'est comme ça, il y a des inégalités, il faut faire avec. Et puis surtout, dans les années 60, 70, la croissance était beaucoup plus forte. Et par exemple, les classes moyennes, elles pouvaient espérer atteindre le niveau de vie des catégories aisées, passer, mettons, aujourd'hui de 1500 à 2500 euros par mois, en l'espace de 12 ans. Donc en 12 ans, on se dit, c'est jouable, on peut le toucher du doigt en fait, hein, 12 années dans une vie de travail, si on travaille bien, si on a un peu de chance, un peu de réussite, c'est accessible. Aujourd'hui, avec notre rythme de croissance économique, il faudrait, pour les classes moyennes, donc passer de 1500 à 2500 euros par mois, il faudrait à peu près 35 années. Donc une vie de travail entière ne garantit pas qu'on va pouvoir voir son niveau de vie s'élever de manière très significative. Donc je pense que ça aussi, c'est un aspect important qui génère un malaise dans l'ensemble de la population. Voilà.
Donc les classes moyennes n'ont pas disparu, elles ont même... Leurs revenus ont un peu augmenté ces dernières années, ces dernières décennies. Par contre, ils ont beaucoup moins augmenté que les très hauts revenus, donc tout le haut de la distribution. Et c'est surtout leurs espoirs qui ont disparu, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, dans une société de faible croissance, on peut espérer monter, notamment en revenus, beaucoup plus lentement que dans les années 60 ou 70. Alors, dans cette impression, dans ce débat sur la polarisation croissante de nos sociétés, il y a un élément qui joue un rôle majeur, c'est celui du développement des services aux personnes, du travail à bas salaire en général. Donc Florence Janicatrice a beaucoup travaillé là-dessus, notamment parce qu'elle vient de publier, enfin elle a publié il y a déjà quelques années un repère aux éditions La Découverte sur les services à la personne. Mais si je m'étonnais de son statut de junior tout à l'heure, c'est notamment parce qu'elle était aussi une des pionnières en France, mais depuis de très longues années maintenant, sur les questions qui sont devenues très à la mode ces derniers mois, des nouveaux indicateurs de richesse, puisqu'elle a aussi, avec Jean Gadret, publié un repère à la découverte sur ces sujets-là il y a déjà plusieurs années maintenant. Donc Florence Janicatrice, sur les services à la personne, le travail à bas salaire, est-ce que toute la dynamique qu'il y a eu dans ce secteur-là est responsable d'une polarisation de la société, du fait qu'on ait le sentiment aujourd'hui que les classes moyennes sont en train de disparaître ?
Je vais donc décentrer un petit peu le propos par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici, le décentrer sur deux aspects. Un, plutôt évoquer la question des inégalités sur le marché du travail. Je vais le faire à partir de quelques indicateurs sur les inégalités de salaire, même si elles ont déjà été présentées par Monsieur l'héritier, sur la question des bas salaires, sur la question des travailleurs pauvres. Mais je vais décentrer aussi une deuxième fois en évoquant, en le faisant sous l'angle ou sous le prisme de la question du genre. Et je faisais à peu près le pari que jusque-là, cette question du travail des femmes et des femmes dans ces inégalités n'aurait pas été abordée. Donc ce double prisme. Alors, pourquoi réfléchir à la question des inégalités sous le prisme de la question du genre? Probablement pour deux ou trois raisons. La première, qui est une raison, je pense, assez objective, c'est que sur les 30 dernières années, il y a eu grosso modo 4,3 millions d'emplois en plus en France. C'est un indicateur, d'une certaine manière, de la santé économique, un indicateur majeur de cette santé économique dans un pays. Et sur ces 4,3 millions d'emplois en plus...
Beaucoup plus qu'au Royaume-Uni, d'ailleurs.
Et sur ces 4,3 millions d'emplois en plus, 3,9 sont occupés par des femmes. Donc il y a 3,9 millions de femmes en plus sur le marché du travail depuis trois décennies et 400 000 hommes. Donc 90% des emplois nets créés l'ont été autour des femmes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième raison, c'est qu'il y a une forme de corrélation. En tout cas, il y a des présomptions, il y a quelques indices qui peuvent laisser entendre qu'il y a des formes de corrélation entre certaines inégalités croissantes sur le marché du travail et le fait que certains des emplois créés l'ont été par des femmes. Et ce n'est pas une fatalité. Il y a depuis trois décennies des tas de politiques d'emploi qui ont été développées et qui ont été véritablement dédiées aux femmes avec tous les présupposés sociaux et cognitifs que l'on peut avoir autour du rôle de la femme dans la sphère domestique, mais aussi sur le marché du travail. J'y reviendrai. Alors il y a au moins trois grandes politiques d'emploi qui ont été créées autour de ces questions. La première, c'est la réduction du coût du travail pour les plus bas salaires, qui est une politique qui est déjà en œuvre depuis le début des années 80 et qui a été encore plus développée à partir de 91-92. Deuxième grande politique d'emploi, de politique finalement beaucoup plus dédiée aux femmes qu'aux hommes pour des tas de raisons sur lesquelles on peut revenir, et c'est l'incitation au temps partiel et à son développement, sur lequel je vais aussi m'attarder un petit peu. Et le troisième, qui est un peu plus récent, encore que les prémices datent du début des années 90, c'est le développement d'un grand secteur d'activité un peu miraculeux qui viendrait résorber tous les maux de la société. C'est le secteur des services à la personne, à la fois qui réglerait les problèmes du chômage en France, ça nous a encore été dit dans une table ronde hier, mais qui en plus... assouvirait l'ensemble des problèmes liés au bien-être individuel et collectif. Alors, Il y a une troisième raison au fait que j'avais envie d'évoquer cette question sous le prisme de la question du genre, c'est qu'il y a aussi une question que l'on pensait en voie de résolution. Au début, dans les années 80 et jusqu'au début des années 90, c'est la question de la non-qualification. On a cru longtemps, pour des tas de raisons tout à fait honorables, que la non-qualification était, sur le marché du travail d'une société très développée, une question en voie de grande résolution, à la fois parce qu'on pensait à l'avènement de la société de la connaissance, il y a des tas d'ouvrages qui sont parus sur ces questions dans les années 80, du fait du progrès technique et puis du fait que nous étions dans une société plutôt riche. Et alors là, la tendance est un peu étroite entre 84 et 94. La courbe verte, c'est la non-qualification. C'est l'évolution des emplois non qualifiés, toutes catégories confondues. Effectivement, on aurait pu penser que cette question était effectivement en voie de résolution. Or, ce n'est pas le cas. À partir de 1994, retenez simplement la courbe verte, celle du milieu, qui est celle du total des non qualifiés. À partir de 1994, il y a eu un véritable retournement de situation avec une croissance assez nette des non qualifiés. Mais cette croissance n'a pas été, j'allais dire, équitablement répartie sur une figure homogène de la non-qualification. Je vais le dire très simplement, la non-qualification, c'était dans les années 80 et en amont, essentiellement une figure portée par des ouvriers du secteur industriel et à temps complet. Aujourd'hui, cette question, c'est massivement une question portée par des femmes employées, donc ce sont surtout des employés non qualifiés, et que l'on retrouve dans le secteur des services. Alors, quand je dis massivement, j'ai mis quelques chiffres aussi, massivement, ça veut dire qu'en 2007, sur l'ensemble des non qualifiés, il y a quasiment 4 millions d'employés non qualifiés, ce qui représente à peu près les deux tiers de l'ensemble des non qualifiés, et vous avez grosso modo sur 6 millions de non qualifiés, je fais des grosses masses, mais sur 6 millions de non qualifiés, 4 millions d'employés non qualifiés, parmi lesquels vous avez essentiellement des femmes, enfin pour 75%, et des ouvriers non qualifiés pour 2 millions d'entre eux. Alors une croissance très forte de cette catégorie des non qualifiés dans laquelle on retrouve essentiellement donc des femmes. Donc ce n'est pas une question qui a été résolue. Et en fait, oui, c'est ça que je voulais rajouter, ces employés non qualifiés sont concentrés à la fois dans des secteurs très réduits en nombre, hôtellerie, restauration, grand commerce, services à la personne et quelques activités du secteur public, et puis concentrés sur quelques métiers. Et là encore, sans avoir le temps, puisqu'on nous a attribué que quelques minutes, mais je vais juste me concentrer sur une catégorie qui est, de mon point de vue, assez symptomatique de ce qui est en train de se produire dans les politiques d'emploi qui sont mises en place actuellement en France. Si je retiens simplement la catégorie ou la PCS des employés de maison, eh bien, pendant des années et des années, il y a eu une décrue de cette catégorie des employés de maison. C'était encore une fois une catégorie en voie de disparition parce qu'elle faisait référence à une forme de domesticité et qu'elle ne pouvait se créer que si les inégalités économiques finalement étaient suffisamment fortes entre les individus pour qu'un certain nombre se mettent, pour que ce soit incitatif et qu'un certain nombre d'individus, en particulier en l'occurrence des femmes, se mettent au service d'autres. Or, on voit un retournement assez fort depuis le début des années 90 et avec donc à peu près donc une décroissance de 4% par an sur l'étendue que j'ai prise entre le début des années 80 et le début des années 90, une croissance déjà perceptible à partir de début 91, c'est aussi le début des emplois familiaux promus par un gouvernement de gauche, et puis une explosion de ces emplois en tête, hein, c'est-à-dire je ne travaille pas en équivalent temps plein, sur la période de 2004 à aujourd'hui, plus 11% par an. Avec donc deux effets simultanés, un l'effet de la production d'emplois familiaux et deux l'effet du plan Borloo. Alors, dans le même temps, tout ceci s'est effectué dans une certaine illusion optique qu'il y avait une stabilité des inégalités de salaire entre hommes et femmes depuis le début des années 90. Grosso modo, on tourne autour d'inégalités de salaire de l'ordre de 25%. Alors que il y a un certain paradoxe, puisque bien que ces inégalités de salaire soient relativement stables, il y a une croissance des femmes dans les catégories professions supérieures, donc cadres et professions intellectuelles supérieures. Il y a un niveau d'éducation des femmes et des jeunes femmes qui est supérieur à celle des hommes aujourd'hui. Et troisième paradoxe, c'est que...
Discrimination positive va bientôt s'imposer, oui.
Et troisième paradoxe, c'est qu'il y a des dispositifs légaux qui sont régulièrement mis en place pour promouvoir cette égalité professionnelle homme-femme. Pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, un nouveau dispositif légal a été, médiatisé autour de cette question. Alors, comment peut-on régler ce problème, ou en tout cas, comment peut-on identifier ce paradoxe? Je pense qu'il faut regarder essentiellement au bas de l'échelle. Alors, ça va peut-être un tout petit peu contredire ce qui a été évoqué tout à l'heure, mais quand même, je me lance. Il faut regarder du côté des bas salaires et regarder sous ce prisme-là ce qui se passe. Lorsque l'on s'intéresse, je vais aller très très vite sur cette question, puis on y reviendra dans le débat. Lorsqu'on regarde les bas salaires, on a plusieurs manières de faire. Il n'y a jamais un seul indicateur qui permet d'avoir une vision un peu neutre de ce qui se passe. Ça vaut pour la richesse dans le débat de tout à l'heure, et ça vaut aussi évidemment sur la question des inégalités, du versement des salaires, etc. Bon. Lorsque l'on regarde les bas salaires sur une base de salaire horaire, qui est souvent un indicateur qui est utilisé, qui est de plus en plus utilisé, avec une légitimité accrue pour établir un certain nombre de comparaisons internationales. Alors, les bas salaires en France, il y en a relativement peu sur cette base, en salaire horaire. Donc, alors, le bas salaire, c'est 60% du salaire médian dans cette référence-là. Et néanmoins, même si la part des bas salaires sur cette base horaire est relativement faible, la part des femmes est déjà assez importante pour l'ensemble des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, croissance de la non-qualification et puis incitation à la croissance des bas salaires et à la baisse du coût du travail autour de ces bas salaires. Et deuxième, si on retient cette fois un indicateur qui est plutôt un indicateur de bas salaire, mais cette fois-ci sur une base mensuelle, qui est assez légitime à utiliser dès lors que l'on s'intéresse un petit peu à ce qui est perçu par l'individu en tant que travailleur en fin de mois, eh bien là, les choses sont assez différentes. Alors, pas tant finalement sur la question des femmes, encore que, passer de 2/3 à 3/4, c'est quand même une autre histoire que l'on raconte, mais sur la part dans l'emploi. Alors, pour quelles raisons? Parce que depuis 20 ans, il y a eu des mutations drastiques du marché du travail autour de plusieurs aspects. Un, le temps partiel, je l'ai évoqué, mais il y a aussi de plus en plus de travaux intermittents, de travaux sur une base assez hachée, travail saisonnier, etc., etc., et qui, évidemment, mécaniquement, sont moins rémunérateurs, mais c'est pas parce que mécaniquement, ils sont moins rémunérateurs qu'il ne faut pas les identifier dans les statistiques que nous produisons. Et puis, donc, il y a une des raisons de cet écart entre la part dans l'emploi des bas salaires sur une base horaire et l'écart en emploi. Et ce taux de la part dans l'emploi des bas salaires sur une base mensuelle, la plus grande explication que l'on peut trouver, c'est le temps partiel. Et cette question du temps partiel se conjugue en France sur une base quasiment, elle est dominée par les femmes. Hein. De mémoire, en 25 ans, le taux de temps partiel des hommes est passé de 2,5% à 5,5%, et le taux de temps partiel des femmes est passé de moins de 10% à plus de 30% aujourd'hui. Donc une femme sur trois est embauchée aujourd'hui à 30%. Alors évidemment, on peut réfléchir autour du caractère subi, du caractère choisi de cette caractéristique du temps partiel. Je ne veux pas rentrer dans ce débat encore que je suis prête à le faire, mais il y a une question centrale, c'est que c'est une double peine pour ces femmes qui sont à temps partiel, quelle qu'en ait été la raison intrinsèque, c'est que à la fois c'est une rémunération immédiate qui est relativement limitée, et ce sont des salaires différés qui le sont aussi, et des rémunérations, des revenus différés qui le sont aussi, pour une double raison, c'est que l'ensemble des des secteurs d'activité dans lesquels le temps partiel s'est développé sont des secteurs d'activité dans lesquels il y a quasiment peu de possibilités de tremplin vers d'autres activités, donc ce sont des secteurs un peu fermés. Et deuxièmement, parce que qui dit travail à temps partiel dit aussi retraite à temps partiel, et c'est quelque chose, quand on veut s'intéresser au développement durable, peut-être qu'il faut aussi s'y intéresser. Dernier élément, peut-être que lorsque on est à bas salaire, on n'est pas nécessairement pauvre, parce qu'on peut effectivement faire partie de ménages qui eux-mêmes sont relativement riches, ou qui permettent en tout cas de subvenir aux besoins de l'ensemble des individus qui composent ce ménage. Alors là aussi, on peut raconter des histoires relativement différentes selon que l'on s'intéresse à la question des working poor au sens international du terme, travailleurs pauvres, qui combinent deux caractéristiques, une caractéristique individuelle de revenus que vous percevez en tant qu'individu et une caractéristique de ménage qui vous met un seuil de pauvreté, mais pour l'ensemble des revenus perçus par le ménage. Et donc, si l'on s'intéresse à cette question, d'abord, le taux de travailleurs pauvres est relativement faible, je mets des guillemets à ceci, en France, autour de 7%, et la part des femmes est relativement faible. Il est grosso modo à peu près l'équivalent de leur taux de participation au marché du travail, 46%. En revanche, si on travaille sur d'autres indicateurs, comme le fait par exemple Sophie Ponthieu très récemment, en travaillant sur la pauvreté économique qui ne tient pas compte des revenus de l'ensemble des individus du ménage, alors on raconte une histoire un petit peu différente. Et là, dans un nouvel indicateur de pauvreté économique, la part des femmes atteint 70% de cette pauvreté dite économique des travailleurs. Je conclus sur la question suivante. Je pense que depuis 25 ou 30 ans, on a adopté un certain nombre de politiques d'emploi assez spécifiques, dédiées ou dédicacées principalement aux femmes, puisqu'elles ont constitué les hordes de salariés qui se sont portés sur le marché du travail et qui ont accru un certain nombre d'inégalités qui sont supportées par elles, parce qu'on a souvent pensé, et c'est, je reviens à la question des services à la personne, on a souvent pensé les emplois et les secteurs d'activité porteurs de ces emplois comme des secteurs gisements d'emplois, dont je rappelle que la métaphore renvoie davantage à l'exploitation minière qu'à la valorisation des emplois. Et il me semble que si l'on veut avancer sur ces questions, il faut peut-être s'interroger sur la question de la création d'emplois à tout prix, et en tout cas toujours accommoder la question des taux d'emploi d'un indicateur de qualité de ces emplois.
Donc on peut difficilement comprendre la question qu'on se pose aujourd'hui autour des classes moyennes si on n'introduit pas la question du genre, parce que c'est autour des femmes et de l'emploi des femmes que s'est développé de nouveau de l'emploi à bas revenus en France, à travers des politiques publiques très actives, tant pour le développement du temps partiel que pour le développement des employés de maison et autres choses de ce genre. Sans que ce soit une spécificité de la gauche ou de la droite d'ailleurs. Si vous me permettez, j'ajouterai juste une petite couche. Il y a une autre politique très active qui joue un rôle très important là-dedans, c'est le développement, l'incitation au développement à la création d'entreprises, c'est-à-dire qu'une partie très significative des travailleurs pauvres en France sont des travailleurs indépendants pauvres. 25% des travailleurs indépendants sont des travailleurs pauvres. En France, il n'y a qu'au Portugal où la proportion soit à peu près équivalente dans toute l'Europe. Pierre-Noël Giraud, donc vous travaillez, vous, depuis très longtemps sur la mondialisation et son interaction avec la question des inégalités. Donc vous avez écrit, c'était en 1996 déjà, l'inégalité du monde. Vous revenez aussi sur ces questions dans La mondialisation, émergence et fragmentation que vous avez publié à Sciences Humaines l'an dernier. Et par ailleurs, pour ceux qui l'auraient loupé au premier passage, il faut signaler que Le commerce des promesses vient de sortir en point seuil, donc une collection peu cher, avec une édition revue augmentée. Donc la question que je voulais vous poser, c'est naturellement, enfin, d'une part, que pensez-vous de l'appréciation qu'on peut porter sur la question qu'on se pose ce matin, et d'autre part, si vous pensez qu'elle est pertinente, dans quelle mesure la mondialisation serait responsable de cette polarisation croissante de nos sociétés?
Ben, je voudrais tout d'abord dire à quel point, moi, personnellement, j'ai été passionné par les trois exposés précédents. Vraiment, je ne regrette pas d'être venu. J'en ai retenu deux choses. On a peut-être quand même un problème de thermomètre pour mesurer les inégalités. Et alors qu'on vient de réfléchir beaucoup sur la façon de mesurer le bien-être, le PIB, avec la commission Stiglitz, peut-être qu'on devrait prolonger tout ça en réfléchissant sur les indicateurs d'inégalité. Par exemple, il y a eu des pistes suggérées extrêmement intéressantes qui sont, à la fin du mois, combien il me reste une fois que j'ai payé tout ce que je suis obligé de payer. Eh bien, en bas de l'échelle, c'est 30 euros. En haut, c'est des milliers d'euros. Bon, si on fait le ratio, il est probable que ça a augmenté beaucoup ces dernières années. Alors, ça me paraît d'autant plus important d'avoir différents thermomètres, que très clairement, c'est la deuxième leçon que je tire de ce qui a été dit, c'est que la perception des inégalités, c'est un phénomène subjectif. La richesse, c'est relatif, c'est pas seulement absolu. Elle a aussi une dimension relative, subjective. C'est-à-dire, ce qu'on croit être les écarts de richesse fait qu'on se sent être riche ou pauvre. Voilà. Alors, on m'a demandé d'essayer de dire si, à mon avis, il y a un lien entre la mondialisation et la croissance des inégalités. Parce que même si elles ont objectivement moins augmenté en France qu'on le perçoit, à tort donc, ou à raison, ça dépend de l'indicateur, elles ont, selon les mesures les plus classiques, fortement augmenté ailleurs. Ça a été dit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, même en Allemagne et même en Europe du Nord. Bon. Est-ce que la mondialisation est coupable? Je reprends à dessein le titre d'un recueil d'articles qui avait été publié à la fin des années 90 de Paul Krugman sous le titre « La mondialisation est-elle coupable ?» point d'interrogation. Et Krugman, à l'époque, avec 90% des économistes, répondait « non ». Et il y avait quelques économistes, dont moi, qui répondaient « oui ». J'étais en minorité à l'époque. Maintenant, Krugman admet que, dans une large mesure, la globalisation est responsable de l'accroissement des inégalités. Qu'est-ce qui était proposé comme explication de l'augmentation des inégalités très perceptible dès la fin des années 90, aux États-Unis en particulier et en Grande-Bretagne? C'était le progrès technique. Les nouvelles techniques de la numérisation expulsaient du travail non qualifié. On n'avait plus besoin de dactylos, puisque maintenant les cadres font eux-mêmes leur travail de secrétariat. Et puis donc demander des travailleurs qualifiés pour entretenir les ordinateurs, etc. Donc le prix du travail déqualifié, peu qualifié baissait, et le prix du travail qualifié augmentait, tout simplement parce que le progrès technique demandait plus de travail qualifié que de travail non qualifié. Ça, c'était l'explication dominante. Vous voyez bien que si on a cette explication, la solution est très simple, il suffit de former les gens. Voilà. Vous prenez des non qualifiés, vous les qualifiez et vous rétablissez l'équilibre et les inégalités s'arrêtent de croître. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas si simple et ce n'est pas la solution. Certes, on va le voir, la formation fait partie de la solution, mais pas de cette manière qui était dite à l'époque. Alors moi, j'avais proposé à l'époque une autre grille d'interprétation de la manière dont la mondialisation pouvait, mais dans certains cas, certains pays peuvent résister à cette tendance. Donc comment la mondialisation peut accroître les inégalités? Et pour le comprendre, il faut tenir compte qu'il s'agit de mondialisation. Donc, au lieu de regarder les non-qualifiés et les qualifiés, observons dans un territoire donné ceux qui sont en compétition mondiale avec d'autres, ceux qui sont exposés à la compétition internationale. Et cette exposition est le résultat de l'existence aujourd'hui de ce que j'appelle des acteurs capitalistes nomades, firmes nomades. Il y a désormais des firmes qui mettent en compétition les gens qui sont attachés à un territoire au plan mondial, pour la localisation des activités de production, des activités de recherche, de plus en plus, toutes les activités qui constituent le métier de la firme, on se demande où est-ce que je les place. Même le siège social. Est-ce qu'il vaut mieux être à Paris, à Londres ou à Bruxelles? Bon. Et donc, cette mise en compétition définit dans chaque pays un groupe de gens que j'appelle les exposés compétitifs. Compétitifs parce que pour continuer à travailler, ils ont besoin d'être compétitifs par rapport aux autres. Ils sont en compétition avec les autres dans d'autres territoires. Ça, c'est un premier groupe. Deuxième groupe, ceux qui ne sont pas dans ce cas-là. Que font-ils ? Ben, ils produisent des biens et surtout des services, d'ailleurs, dont on vient de parler, les services à la personne, qui sont des biens et services qui ne circulent pas, qui ne font pas l'objet d'un échange international, qui sont nécessairement achetés et consommés par des gens qui sont vos voisins dans votre territoire. Et c'est un vaste domaine. Les services à la personne, mais le bâtiment aussi. Il y a aussi des biens. Toute l'administration, la police, etc., etc. Ça, je les appelle des protégés. Bon. Alors, à ce moment-là, comment agit la mondialisation sur les pays riches ? Qui étaient des pays riches, les pays les plus avancés, l'Europe, les États-Unis, le Japon. D'abord, elle met en compétition les compétitifs de ce pays avec d'autres qui, en plus, montent en puissance, montent en qualification, etc. Donc, elle a tendance à réduire le nombre des compétitifs. C'est ce qu'on a appelé la délocalisation n'est qu'une manifestation de ce phénomène qui est beaucoup plus général. Donc, la globalisation a d'abord tendance, avec l'émergence des pays émergents, de compétitifs très compétitifs dans les pays émergents, à réduire le nombre des compétitifs dans les pays riches. Mais évidemment, ceux qui restent, c'est qu'ils restent compétitifs. Donc, en général, leur nombre est réduit, mais leur niveau de vie augmente. Puisqu'ils fournissent sur le marché mondial, dans un pays où les salaires sont élevés, des services qui sont achetés, donc qui se distinguent qualitativement et qui peuvent vendre très cher. Par exemple, aux États-Unis, vous savez, l'emploi manufacturier aux États-Unis, c'est 10% de la population active aujourd'hui. Vous rajoutez 2% d'agriculteurs, qui sont aussi dans le secteur compétitif. Vous rajoutez quelques pourcents de compétitifs qui sont dans les services à très haute gamme, les services financiers, la recherche, l'innovation, les start-up technologiques, etc. Et puis le reste des gens, ben, ce sont ce que j'appelle des protégés, c'est-à-dire qu'ils sont employés dans les services à la personne, le bâtiment, le commerce, le détail, etc., etc. Et de fait, le nombre des compétitifs a diminué, tandis que leur salaire moyen a augmenté, parce que ce sont les survivants de l'ouverture à la globalisation du territoire américain. Donc vous voyez que si on est dans cette situation où le nombre de compétitifs diminue, ceux qui étaient avant des compétitifs doivent trouver à s'employer dans le secteur des biens et services. C'est d'ailleurs là qu'on a créé tous les emplois, protégés. Donc, tout va dépendre de la demande de biens et services protégés. Puisque le nombre de gens de ce secteur augmente, si la demande adressée à ce secteur n'augmente pas, vous voyez bien qu'ils vont, d'une façon ou d'une autre, et quelles qu'en soient les modalités, ils vont devoir se partager, en étant plus nombreux, un revenu qui correspond à la demande de biens et services protégés, qui, lui, n'a pas de raison d'augmenter. Donc, le deuxième paramètre fondamental pour comprendre les inégalités, le premier, c'est comment évolue le nombre et la richesse de vos compétitifs. Le deuxième paramètre, c'est comment évolue la demande pour les biens et services protégés. Bon. Et cette demande, elle vient de qui ? Ben, des compétitifs, qui partagent leurs revenus entre des voitures, c'est un bien compétitif, ou des matériels d'informatique, ou des voyages aux Bahamas, tout ça, c'est des biens compétitifs, avec du service domestique. Vous avez eu l'explosion du nombre de femmes de ménage. Et encore, on ne compte pas celles qui sont sans papier, qu'on ne peut même pas payer avec des chèques emploi-service. Bon. Donc, le deuxième paramètre, c'est est-ce que les biens et services protégés sont de plus en plus demandés ou pas ? S'ils sont de plus en plus demandés, les inégalités peuvent ne pas augmenter, malgré la diminution du nombre de compétitifs. Donc, voilà les deux paramètres fondamentaux. Alors, vous voyez bien que, selon les pays, la globalisation a des effets différents. Dans certains pays, le nombre, mais la richesse des compétitifs augmente. Ils adressent à des protégés une demande qui, comme leur nombre diminue et que leur richesse augmente, est peut-être constante. Mais comme le nombre des protégés, lui, augmente, le revenu moyen des protégés, ça baisse en valeur relative par rapport au premier. Et vous avez donc un creusement des inégalités entre les compétitifs qui restent compétitifs, qui sont de plus en plus compétitifs, et puis les autres. Et ça peut même aller, évidemment, vous comprenez bien, ça explique des phénomènes d'exclusion, ce que j'appelle dans mon dernier livre, l'avant-dernier, l'homme inutile. C'est-à-dire que ceux qui sont plus compétitifs, ils vont chercher à s'employer dans le secteur protégé. Mais s'il n'y a pas de demande, ils vont devenir inutiles. Bon, alors, selon les systèmes, parce qu'ils ne sont pas compétitifs, n'y a plus de demande de biens et services protégés. Donc selon les systèmes, ils sont indemnisés plus ou moins bien, etc. Mais vous voyez, ça contribue aussi à l'augmentation des inégalités. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas fatal. Si dans un territoire, des politiques publiques, premièrement, augmentent le nombre de compétitifs, et ça, en effet, on va retrouver la formation, la recherche-développement, etc., eh bien, vous ralentissez la croissance des inégalités. Mais il y a un deuxième volet des politiques publiques qui, à mon avis, est très largement négligé, c'est qu'il faudrait faire en sorte que les biens et services protégés soient plus demandés. Et comme on ne peut pas forcer les gens à acheter français, comme on voulait faire à une certaine époque, il faut que la qualité des biens et services protégés s'améliore pour que les gens veuillent simplement en consommer plus. Et là, il y a un vaste domaine des politiques. Comment améliorer la qualité des biens et services protégés pour faire en sorte que les compétitifs en demandent plus, et au lieu d'acheter des DVD d'Hollywood, eh bien, ils vont au théâtre vivant, au lieu d'acheter des surgelés, ils vont au restaurant, etc., etc. Alors, à ce moment-là, on peut aussi stopper l'aggravation des inégalités.
Donc, la mondialisation est bien en partie responsable de cette dynamique de creusement des inégalités. On peut néanmoins faire quelques politiques pour en limiter les effets. Alors,